Maurice Leblanc, conte de Gil Blas, Monsieur et Madame Jumelin. Dans une petite maison isolée, située entre Duclair et le château du Tailly, un homme s'est pendu. Il laissait ce manuscrit. Je me tue. Il y a des souvenirs qu'on ne peut supporter. Ils vous hantent. Ils vous forcent à mourir. On voudrait les écraser et ils se redressent, plus impérieux. C'est le centre de notre vie, le pivot autour duquel tourne la danse de nos idées, le motif permanent de notre conduite. La fonction du cerveau n'est plus de penser mais de se rappeler. Nous ne sommes plus des êtres doués de volonté et de jugement, nous sommes une mémoire. Ainsi, moi, je me souviens. Un seul souvenir met en jeu toutes mes facultés intellectuelles et physiques. Mes yeux ne voient que cela. Mes oreilles n'entendent que leurs paroles. L'acte se consomme devant moi. Mon Dieu, comme ce serait bon d'oublier. Mais l'eau bienfaisante n'existe pas, qui effacerait le passé et me laverait l'âme des odieuses visions dont elle est flétrie. Donc, il me faut mourir. Quand vous aurez lu mon histoire, vous m'approuverez. Il y a une trentaine d'années, habitaient ici, dans cette maison même, deux vieux garçons, les frères Auguste et Joseph Jumelin, que l'on désignait sous la dénomination bizarre de Monsieur et Madame Jumelin. Auguste, maigre et sec, avait un grand corps efflanqué, aux jambes et aux bras noueux, la figure coupante et sans lèvres, la peau du front crevée d'os. Joseph, que tous appelaient Joséphine, était gros, gras, glabre, toujours vêtu d'une redingote serrée à la taille et ballante sur les jambes comme une jupe. Auguste, très actif, se levait à 7 heures, se rendait au bourg où le sollicitait un commerce de fruits et des fonctions d'adjoint et présidait une ligue fondée par lui, la Ligue pour le développement des idées libres penseuses du canton de Duclair. C'était un homme sombre, on le disait atteint d'une maladie noire. Son frère, Joseph, ou plutôt Joséphine, d'un naturel plus joyeux, se distinguait par ses aptitudes de ménagère. En bonne épouse, il gardait la maison. Dès le matin, il s'affublait d'un tablier, trottinait à travers les chambres, un trousseau de clés à la main, et jusqu'au soir, donnait l'exemple à la servante, frottait, cirait, astiquait, époustait. Il fallait que la batterie de cuisine éteint cela, et que les parquets fussent irréprochables. Auguste, qui avait de la repartie, tout Duclair le lui accordait, appelait son frère Maman Pot-au-feu. De ce surnom, Madame Jumelin s'enorgueillissait. À 11 heures exactement, on se mettait à table. Les repas étaient empreints de solennité. Joséphine, qui en avait surveillé la confection, épiait avec inquiétude le visage de monsieur. Monsieur, d'ailleurs, parlait peu. Il approuvait ou blâmait en quelques mots. Madame rayonnait ou courbait la tête selon la sentence. En dehors de cela, leurs entretiens se bornaient à de courtes réflexions qu'Auguste émettait parcimonieusement sur les choses et sur les gens. Joséphine les accueillait comme des oracles. Le ménage s'entendait assez bien. L'un dominait l'autre, cause d'harmonie. Madame craignait monsieur. De fait, il se montrait dur pour elle. À 5 heures, Auguste quittait définitivement son bureau. Souvent, Madame Jumelin le rejoignait à Duclair et ils rendaient ensemble des visites ou se promenaient le long du quai en regardant glisser les grands bateaux. Tous les dimanches, Joséphine, que les opinions avancées de son frère scandalisaient, allait à la grand-messe un paroissien sous le bras. Auguste, planté ostensiblement devant la porte de sortie, l'attendait hors de l'église. Au retour, on achetait une brioche. Parfois, madame rapportait un morceau de pain béni, mais monsieur refusait d'en manger. Une fois par semaine, le jeudi, on recevait quelques amis. Le repas achevé, Auguste retenait ces messieurs et leur offrait des cigares. Joséphine passait au salon avec ses dames. Le soir, on touchait du piano et M. Jumelin, accompagné par Joséphine, chantait quelques couplets comiques d'une voix lugubre. Et cela dura des années, sans incident plus notable. Le commerce prospérait, les invitations aux soirées du jeudi étaient fort recherchées. Rien ne troublait la surface de cette vie stagnante. Monsieur Jumelin accentuait son rôle d'homme, de maître, de mari. Le bruit courut qu'il battait son frère. Madame Jumelin ne sortait pas de ses attributions subalternes de ménagère et d'épouse. Vraiment, elle semblait dominée par ce surnom que lui avait imposé la bêtise d'une petite ville et qui, de plus en plus, influait sur ses habitudes, sur ses manières d'être, de penser et de se vêtir. Un événement bouleversa cette existence tranquille et honorable. Une petite bonne qui servait chez eux, une campagnarde des environs de Rouen, se trouva enceinte. Les Jumelins lui offrirent de l'argent, mais elle proclama sa grossesse et prétendit que les deux frères l'avaient violée tour à tour. Auguste prit une résolution énergique. Il disparut avec la bonne et revint plusieurs mois après, portant, enveloppé sous son bras, un enfant, un garçon. C'était moi. Lequel des deux fut mon père, je l'ignore. Ma mère, je ne l'ai jamais vue. C'est dans cette maison, entre ces vieux célibataires, que je grandis. Je n'y manquais pas de soins. Dès le début, les instincts maternels de Madame Jumelin se révélèrent. La gardienne du foyer se doubla d'une mère incomparable. Elle me tenait mon biberon, me changeait ma layette, me dorlotait, m'endormait le soir en chantant des refrains de nourrice. Ma première dent la ravit, mes coliques l'effrayèrent. Monsieur Jumelin la baptisa Nounou. Mais moi, je la vengeai un jour de cette moquerie en balbutiant un jour « Maman ». Elle me dévora de baisers. On courut au-devant de monsieur pour lui annoncer l'heureuse nouvelle. Auguste fit. Il a de l'esprit, le gaillard. Nous nous entendrons. Depuis, j'ai toujours appelé monsieur Jumelin papa et son frère maman. Aujourd'hui encore, quand je remonte vers mes premières années, vers la lointaine époque où ne m'importait point le mystère de ma naissance, ni l'horrible secret que j'ai appris plus tard et qui me fait maudire mes parents, quand je songe à l'être qui m'a élevé, qui m'a entouré de câlinerie et d'affection, qui a réchauffé mon corps avec ses lèvres de mère, c'est du doux nom de maman que je l'appelle, car c'est la seule maman que j'ai connue, et je voudrais lui pardonner à elle. À 6 ans, je dus aller à l'école. Un menu fait me la rendit un lieu de supplice pour les 5 années que j'y restais. Une fois après la classe, un de mes camarades qui demeurait du même côté que moi m'apostropha. « Hier, j'ai entendu papa qui disait que t'avais pas de mère, c'est-il vrai ?» Sur le seuil, Madame Jumelin m'attendait. « Si, j'ai une mère. Tiens, la voilà. »« Ça, une mère ?» C'est un monsieur, une mère, ça a des jupes. Cette révélation me foudroya. Je ne dormis point. Le lendemain, à l'école, un grand me jeta en pleine figure. Comment va-t-elle, ma Joséphine ? Dès lors, je fus la risée de mes compagnons. je devins timide. Ma sensibilité s'affina jusqu'à l'excès. À tout instant, autour de moi, l'on parlait de Madame Jumelin avec des intonations railleuses. Pourquoi ce sobriquet inoffensif me cinglait-il comme une injure? Par quelle bizarre prescience ne pouvais-je l'entendre sans un frisson? Ces moqueries, cependant, m'attachaient de plus en plus à ma mère. Sa nature dévouée convenait à mon caractère ombrageux. Elle se confiait à moi en des crises d'expansion qui me renseignaient sur les méchancetés de son frère, sur sa mauvaise humeur, sur les violentes querelles dont elle sortait épuisée, les membres rompus de coups. La conduite de M. Jumelin m'indignait. J'en vins à le détester et je l'évitais, guidé par cet instinct de l'enfant qui s'éloigne des personnes sèches et dures. D'ailleurs, il s'assombrissait chaque jour davantage. Toute société l'importunait. On supprima les réunions du jeudi. Il donna sa démission d'adjoint et de président de la Ligue libre-penseuse. Au reproche de ma mère, il répliqua : « Que m'importent les honneurs ?» Tous les matins, avant de partir, j'allais embrasser mes parents. Or, un jour, en entrant chez lui, je vis pendu à un clou du plafond mon père. C'est une des affreuses visions qui me hante la première. Et elle ne me hante pas seulement comme un souvenir imprimé dans mon cerveau, mais comme une réalité présente, actuelle, que je revis à toute minute. Il est là, devant moi, la tête ployée, les yeux grands ouverts, et il me tire la langue, une langue bleue et gonflée. Puis-je espérer quelque bonheur avec ce cadavre dont la silhouette danse sur les murs, sur les journaux, sur tout objet où se pose mon regard? Je ne retournai plus à l'école. Madame Jumelin loua un appartement à Rouen, et je suivis les cours du lycée Corneille. Ma mère ne manquait point de venir m'y rechercher. Je me la représente encore, debout sur le trottoir, vêtue de son éternelle redingote. Elle s'emparait de mes livres. Nous marchions en causant et je lui racontais les incidents de la classe. Aussitôt arrivés, nous nous installions, auprès de la fenêtre, devant une petite table. J'écrivais mes devoirs sous sa surveillance et je lui récitais mes leçons. Avec l'âge, cependant, se développaient mes tendances à l'inquiétude. Je cherchais tout ce qui pouvait me chagriner. Inévitablement, je ne tardais pas à réclamer la vérité sur ma naissance. Qui suis-je? Un enfant trouvé? Le fils de l'un de vous? Après de longues hésitations, Madame Jumelin me révéla ce qu'elle savait. J'insistai. Soit ma mère est une bonne quelconque que vous avez eue à votre service. Mais de vous deux, qui est mon père? Elle répondit, en rougissant, je ne sais pas. Elle ne savait pas, source intarissable de douleur, elle ne savait pas. Peut-être le sang qui coulait dans mes veines ne provenait-il point du vieux garçon que j'exécrais, mais de celui qui me chérissait et que j'appelais toujours ma maman? Peut-être, hélas, étais-je le fils du pendu, et ma maman ne m'était-elle rien qu'un parent dont la chair n'avait point engendré ma chair, dont la vie n'avait point créé ma vie? Devais-je l'aimer d'amour filial ou d'affection reconnaissante? Je lui disais mon supplice. Elle affectait d'en rire. « Qu'importe qui est ton père, je ne veux même pas l'être, je suis ta mère avant tout. » Et sa voix tendre et son bon regard anxieux me réconfortaient. Ainsi, nous vécûmes là quelques années paisibles, les moins mauvaises certes de mon existence. Je n'y connus aucune de ces joies déterminées qui s'imposent à la mémoire. Ce fut plutôt une succession de jours bien remplis, dont la monotonie endormait ma souffrance. Au lycée, je nouais quelques relations assez intimes avec des camarades de classe. Un surtout. Ah, je me rappelle cela maintenant. Un surtout, un grand, m'attira par sa force, par son aspect solide, par l'aisance de ses gestes. Je me sentais chétif à côté de lui. J'aurais voulu qu'il me battît, qu'il me brisât les membres de ses bras puissants. Je l'aimais de tout mon cœur qui s'éveillait. Et puis il partit. Je ne l'ai plus revu. Mais ses yeux m'obsèdent encore. Ses grands yeux bleus, très purs. Un dimanche, des amis m'entraînèrent à l'estaminet. Il y avait plusieurs femmes. On but, on rit. Une petite blonde de figure agréable s'assit sur mes genoux et m'embrassa. Je la repoussai violemment, comme écœurée de ce contact. Elle se fâcha. Mes amis me plaisantèrent et je m'en allai, jugeant moi-même ma conduite absurde. Mon Dieu, comme tout cela m'apparaît clairement aujourd'hui, aujourd'hui que je vais mourir. Comme toutes ces choses auxquelles je n'avais jamais réfléchi, se précisent, s'expliquent, se coordonnent, acquièrent un sens particulier, une importance spéciale. Comme je comprends bien tout, tout. Une fois par mois, Madame Jumelin accomplissait pieusement un pèlerinage à Duclair. Malgré mes supplications, elle avait conservé la maison du pendu, comme la désignent encore les paysans d'alentour. J'ai eu là de bons moments, disait-elle. Ce serait mal de la vendre. Moi, je refusais d'y aller. Cette maison m'inspirait une sorte de terreur. Le fantôme du mort l'habitait. En outre, je l'ai su depuis, le pressentiment m'y assaillait des choses innommables que ces murs avaient dissimulées. Ma mère revenait le lendemain. Je l'attendais à l'arrivée de la diligence. Or, un mardi, j'en célèbre chaque semaine l'anniversaire par des imprécations, les quatre chevaux de l'omnibus débouchèrent au grand trot sur la place du Vieux Palais. Et le conducteur, m'interpellant du haut de son siège entre deux coups de fouet, me cria « Vite ! La maman Jumelin vous attend, elle est malade !» Je choisis un fiacre et je partis. Je trouvai ma mère couchée. Elle m'embrassa avec un sourire triste en balbutiant « Mon pauvre petit, mon pauvre petit !» Je sanglotais, j'interrogeai le docteur. Il me répondit « C'est la fin !» Un transport au cerveau. Le prêtre entra. Je m'éloignai et me tins dans le salon. Je ne pleurais plus. Des idées se succédaient en moi que je ne comprenais pas. Je me sentais très seule, simplement seule déjà. Et j'avais peur. Rompant le chuchotement de la confession, la voix du prêtre s'éleva, indignée, me sembla-t-il. La cloison était mince, j'entendis. « Mon fils, vous êtes un grand pécheur. » Quelque chose comme un rire crispa ma bouche. Cette pauvre maman Jumelin, un grand pécheur ? Le murmure recommença. J'écoutais, mais il était trop faible. Puis, soudain, une voix haute accentua cette phrase étrange. « Il ne faut pas douter, mon fils. C'est là qu'on doit chercher la cause de la maladie noire qui a décidé votre frère à se tuer. Vous auriez dû vous séparer, ne plus vivre ensemble, vous fuir l'un l'autre comme deux ennemis mortels. » Je me levai épouvanté. J'entr'ouvris la porte et j'aperçus ma mère. Ses yeux étaient fermés, les lèvres blanches s'agitaient, mais je ne distinguais qu'un long gémissement, des plaintes. Autour d'elle, les rideaux du lit, presque fermés, étouffaient davantage la confession. Sur les draps, plus bas que le menton, un Christ gisait. Enfin, le prêtre saisit les mains de l'agonisante et conclut. « Mon fils, il n'est point de crime si monstrueux auquel Dieu ne pardonne. Sa miséricorde est infinie. Espérez. » Je m'enfuis, je gagnai la route, je me cachai dans un fourré. Quand je revins, ma mère était morte. Comprenez-vous maintenant? Ai-je le droit de me tuer? Voilà 10 ans que je vis, sachant cela. Combien d'hommes auraient pu lutter aussi vaillamment? J'ai voyagé, j'ai joué, rien ne me distrait de cela. Je n'ai pas un ami, pas une connaissance. J'ai tenté d'aimer. L'hérédité pèse sur moi. Donc, je suis bien seule au monde, seule avec un souvenir, et ce souvenir me tue. N'est-ce point d'ailleurs la destinée qui m'a reconduit ici, malgré moi, dans cette maison maudite, à l'endroit même du crime? Je ne peux plus vivre, je ne peux plus vivre. Un jour, j'espérais devenir fou. Ce ne me fut même pas accordé. Je n'ai qu'une demi-folie, celle du jaloux ou de l'avare, l'idée fixe. Toutes mes pensées, tous mes rêves se concentrent sur une vision. Elle ne me quitte jamais. Elle marche devant moi, elle couche auprès de moi. Mon cerveau est à nu, tout saignant. Et à chaque minute, à chaque seconde, implacablement, comme un fer rouge, s'y incruste cette hideuse image, un clou. Et pendu à ce clou, un couple, monsieur et madame Jumelin. Et ce clou m'attire, il me veut. Allons, il le faut. Le Gil Blas, 12 décembre 1892.